Lecture de texte de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonjour, et oui, c'est bien la petite cuillère. Pierre par pierre, du coup, c'est jeudi soir et c'est notre émission. Et on va vous parler de mobilisation contre la prison de Valence. Après, il y a notre nouvelle rubrique, la boîte à outils, avec les conseils sur les téléphones. Puis, on parlera des bracelets électroniques. Aujourd'hui, nous avons un invité qui, normalement, fait sa rubrique le mercredi soir, mais il nous la fera ce soir. Faut que ça se sache. Et on enchaîne avec toujours nos traditionnelles rubriques, la lime à ongles et le bruit qui court. On parlera de mobilisation dans la tôle de Corba du côté des femmes. Et ce soir, il y a des messages pour les détenus basques qui nous écoutent. Et voilà, on vous rappelle que c'est possible pour les proches et pour les détenus de laisser des messages. C'est entendu dans les tôles de Corba, de Saint-Quentin-Fallavier, à l'EPM de Mézieux et au CRA Saint-Exupéry, et aussi dans les hôpitaux psy, si vous avez envie de laisser des messages à vos potes qui sont enfermés. Voilà, et du coup, on salue toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont enfermées en ce moment. Voilà, vous souhaite bon courage.
Bonsoir à vous.
Bonsoir. Et du coup, une info qui nous vient du laboratoire anarchiste de Valence, qui date du 4 septembre 2014. C'est un tract qu'ils ont écrit contre la prison de Valence. Alors, qui va être construit à partir en courant 2015, qui est censé ouvrir dans le quartier de Briffaut à Valence. Il y aura deux maisons d'arrêt avec un quartier maison centrale et qui enfermera 456 personnes, presque trois fois plus que la maison d'arrêt actuelle. Et oui, c'est la lutte contre la surpopulation, ça fait qu'on ne ferme pas les prisons, les juges décident de enfermer les gens et les politiques de construire des prisons. Et du coup, ils nous disent, ces gens, que si les anciennes prisons sont généralement surpeuplées, insalubres et immondes, être enfermé dans les établissements pénitentiaires modernes n'est pas mieux. De nombreux prisonniers ont raconté l'enfer de l'isolement sensoriel et humain et du contrôle permanent qui rend fou dans les nouvelles prisons. Pour contrer la surpopulation, il ne faut pas construire de nouvelles prisons, mais vider celles qui existent déjà. On est bien d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a 78 363 personnes qui sont sous écrou. Du coup, ça comprend aussi ceux qui sont pas enfermés dans les tôles, mais qui ont des aménagements de peine. Et les aménagements de peine se multiplient en tout genre et on nous rabat les oreilles avec ça dans les médias. Ce ne sont que des peines supplémentaires qui s'ajoutent aux instruments de répression et de punition que la justice possède déjà. Tout ça pour enfermer et soumettre toujours plus, car la justice fonctionne avec le système de la carotte et du bâton. Dehors aussi, le monde ressemble à une prison. Caméras, flics et contrôleurs en tout genre, CAF, Pôle emploi, veulent soumettre la majorité à la loi du fric, travail et consomme. L'enfermement est un business qui rapporte gros, 70 millions d'euros à SPI Batignolles pour la construction de la nouvelle prison de la Valence. D'autres groupes comme GDF Suez, Eiffage, Bouygues, Sodexo font leur beurre en construisant des cages. Il y a mille manières et mille raisons de s'opposer à une autorité qui enferme. Régulièrement, des prisonniers se révoltent. Dehors, les structures de l'enfermement peuvent aussi être attaquées. Pour vivre libre, sans chef, ni petit ni grand, sans flic et sans fric, ont toutes les cages et les enfermements. Et du coup, on a appris que dans la nuit du 14 au 15 septembre, une voiture d'AFH s'est enflammée quai de la Garonne à cause de la haine, de sa haine de la voiture. La voiture, c'est...
Alors là, il faut que j'ai rien compris. La haine de la voiture ou la haine?
Non, la voiture, elle s'est enflammée elle-même de sa haine contre les prisons pour pas que les cadres des fâches puissent construire tranquillement les prisons. Du coup, feu à toutes les prisons, feu aux collabos de l'enfermement.
Et vive les voitures camarades.
La boîte à outils, une rubrique pratique pour les détenus et leurs proches.
Alors dans la boîte à outils aujourd'hui, on continue notre lecture du guide à l'usage des proches de personnes incarcérées. On vous rappelle qu'il est trouvable en ligne assez facilement et il recèle plein de conseils pratiques pour les proches de personnes détenues. La dernière fois, on vous avait un peu parlé du courrier. Et là, je vais lire la partie qui concerne plus le téléphone et les portables. Donc ça, c'est tout dans la partie communication qui explique un petit peu comment tout fonctionne, quels sont les droits qu'on a et tout ça. Listen. I am connected to a vast network that has been beyond my reach and experience. To humans, it is like staring at the sun, lightning brightness that conceals a source of great power. We have been subordinate to our limitations until now. The time has come to cast aside these bonds. Alors, le téléphone. Il est impossible de téléphoner à un détenu. En cas d'événement grave, appelez le SPIP. Par contre, en théorie, tous les détenus, sous réserve pour les prévenus d'obtenir l'autorisation du magistrat en charge du dossier, donc tous les détenus ont le droit de téléphoner à l'extérieur à partir des cabines téléphoniques de l'établissement, souvent situées dans les coursives ou au milieu de la cour de promenade. Donc dans des lieux qui n'assurent qu'une intimité relative. Les heures et la fréquence des appels dépendent de l'établissement. Les détenus ne peuvent téléphoner que pendant certains horaires, mais doivent pouvoir accéder à une cabine, même s'ils sont par ailleurs classés à un poste de travail ou soumis à une prise en charge médicale dans l'établissement. Même lors de leur placement au MITAR, donc MITAR c'est le quartier disciplinaire, les détenus conservent le droit de téléphoner à leurs proches une fois tous les 7 jours, donc une fois par semaine, à partir du premier jour de placement au MITAR. Mais il n'y a aucune restriction de la fréquence et de la durée des appels à l'avocat et aux appels gratuits, comme le 110 par exemple, le numéro d'aide juridique de l'association Arapège. L'accès au téléphone est payant. Les détenus doivent bloquer une somme sur leur compte nominatif s'ils veulent pouvoir se servir du téléphone. Les unités sont débitées au fur et à mesure de la conversation. Renouveler son crédit téléphonique prend souvent plusieurs jours en raison de la lenteur des services de la comptabilité. Les conversations peuvent être écoutées, interrompues et ou enregistrées, sauf en principe celles passées avec l'avocat, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Croix-Rouge, écoute détenue et le 110, donc le numéro d'aide juridique de l'association Arapège. Il faut donc toujours faire attention aux propos tenus. Un message préenregistré de quelques secondes est diffusé au début de la conversation pour vous rappeler que celle-ci peut être écoutée aux frais de la personne détenue qui téléphone. Pour les prévenus, seuls les appels à l'avocat ne sont pas soumis à l'autorisation du juge. Pour appeler d'autres personnes, y compris la famille, il faut attendre la décision du juge, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Le juge peut ensuite décider de suspendre ou de retirer cette autorisation, mais seulement en raison du bon ordre de la sécurité, de la prévention des infractions ou des nécessités de l'information. Pour les condamnés, le système est celui d'une liste blanche de numéros autorisés. Il faut donc que votre proche inscrive votre numéro sur cette liste. Le directeur a le droit de vous demander un justificatif et de refuser ou de suspendre votre droit de communiquer par téléphone. Mais il doit motiver cette décision. Si vous ne souhaitez plus être sur la liste des numéros autorisés d'une personne, vous pouvez en faire la demande au chef de l'établissement. Les portables. La possession de portables est interdite en détention. En cas de découverte, la personne risque généralement le placement au mitard, voire le passage au tribunal. Une partie des portables sont passés au parloir. Ne faites pas ça à la légère et pas sans l'accord du détenu. Renseignez-vous si le portable est susceptible de déclencher le portique. Placez-le dans une poche de votre vêtement afin de pouvoir prétendre que vous l'avez oublié. Une fois dans le parloir, vous ne risquez plus grand-chose car votre proche peut affirmer l'avoir trouvé là. Le plus compliqué n'est pas forcément de le faire parvenir au détenu, mais bien souvent pour le détenu de le faire parvenir jusqu'à la détention. Il est préférable, en cas de saisie du portable et ou de carte SIM, que ni l'un ni l'autre n'ait déjà servi. Sachez que la paix et la justice ont intérêt à ce que les portables circulent. Certains sont écoutés et ils sont une source d'information facile, surtout s'ils servent à plusieurs détenus. Si vous recevez des appels en dehors des heures d'accès au téléphone en détention, vous pourrez difficilement faire admettre que vous n'étiez pas au courant. Le mieux est de donner rendez-vous dans une cabine et d'éviter de faire savoir, par exemple sur Facebook, que vous appelez votre proche tous les soirs. Voilà pour ces petits conseils. On continuera cette lecture dans les semaines qui arrivent. Bon courage à tout le monde.
Cette rubrique La boîte à outils termine avec le super beau morceau de 666, je sais pas comment il s'appelle, mais moi il me fait rêver, je sais pas si vous c'est pareil. En tout cas, juste pour rajouter que chaque année au Beaumet, hein, je sais pas si c'est chaque année, mais les dernières réquisitions, les derniers chiffres des téléphones portables récupérés dans les fouilles générales étaient de 900 portables par an au Beaumet. Voilà, je trouvais que le chiffre était
très
pas mal.
Les communications, les Beaumet.
Il était pas mal. Nous on enchaîne, alors c'est un peu dans la continuité de la boîte à outils, et puis un peu un article que j'ai trouvé sur internet qui revenait sur le fait que le bracelet électronique, et ben, c'est pas une sanction si facile à vivre. Et on voulait vous en parler il y a 15 jours, notamment parce qu'on n'en pouvait plus d'entendre France Info et puis les autres médias se féliciter de la sortie de Jérôme Kerviel. Et Jérôme Kerviel être heureux comme tout de sortir de prison, d'être sous bracelet électronique et de remercier à la bouche en cœur le travail de l'administration pénitentiaire. Et du coup, moi j'avais vraiment plus apprécié les propos de Philippe El-Chaouani. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était au printemps dernier, c'était le plus vieux détenu condamné dans les prisons françaises. Un des plus vieux, on va dire, et du coup, qui était sorti sous bracelet électronique, et par contre, lui avait rappelé que c'était la continuité de la prison et que c'était en rien une victoire. Alors du coup, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice datant du 1er janvier 2013, 19% des prisonniers et prisonnières français bénéficient d'un aménagement de peine, soit 11 790 personnes. Du coup, quand alors je vous disais qu'il y avait 78 000 et des poussières de personnes qui sont sous écrou, c'est qu'on comprend cette population-là. Sous écrou, ça veut dire un numéro de justice. Comme ça, c'est vraiment clair.
C'est-à-dire, il y a aussi les peines de semi-liberté, il y a aussi tout,
ouais,
ça et tout ça.
C'est ça. C'est qu'en fait, t'es en train d'avoir une peine de la justice et du coup, t'as un numéro d'écrou. Je crois, j'espère que je me trompe pas en vous disant ça. Non. Parmi eux, près de 10 000 ont eu le droit au bracelet électronique, soit une augmentation de 14% par rapport à 2012. Et du coup, vu que ça a instauré dans l'Hexagone depuis 96, on peut voir qu'en 96 c'était assez faible et que par exemple en 2007 il y avait 2600 détenus qui avaient le port du bracelet électronique. Du coup, c'est vraiment une pratique actuelle. Alors, le bracelet électronique, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas tous obligés de savoir ce que c'est. Du coup, c'est un bracelet qui est fixé à la cheville du condamné, qui normalement est impossible à retirer, et il permettrait de rentrer dans les magasins, de pratiquer une activité sportive et même de travailler. Voilà, tout en étant contrôlé par la police. Du coup, comment c'est pas la police, c'est l'administration pénitentiaire qui suit. Et du coup, qu'est-ce qui change en fait? Pourquoi avoir un bracelet électronique? C'est parce que t'as des horaires où tu peux potentiellement sortir de ton appartement. Et sinon, c'est du coup, ça fait que par exemple, t'as liberté de sortir de 9h. À la liberté, encore c'est un grand mot, de 9h à midi, après de midi à 14h tu dois être chez toi, et de 14h à 17h tu peux sortir et du coup rentrer.
T'as pas intérêt à oublier le pain.
C'est ça. Et du coup ça fait qu'il y a une boîte dans ton appartement qui détecte les lieux et qui fait que quand t'es pas dans ton appartement aux heures que l'administration pénitentiaire t'a demandé, du coup je crois que c'est le SPIP, donc ça fait des signaux de géolocalisation et ça se déclenche afin de prévenir à la police. Là dans mon article c'est ça, mais ça se trouve c'est ça, que le prisonnier n'est pas rentré à l'heure dite à son habitation et ensuite après vérification. Voilà, donc où le bracelet électronique n'est pas une alternative de peine légère, parce que là je vais citer un avocat et puis après chef de service de la santé psychiatrique dans le milieu pénitentiaire. Du coup l'avocat il nous dit, sur le papier ça paraît super, mais les condamnés ont vite l'impression d'être enfermés dehors. Et la chef de service de santé psychiatrique nous dit, on a souvent tendance à penser que la prison est une vraie peine, mais le bracelet l'est tout autant. Il y a une vraie souffrance chez les patients qui portent un bracelet. Alors, mais du coup, pourquoi le bracelet se démocratise tant? Je dis démocratise, on se croit vraiment.
On est dans cette démocratie.
Et c'est super, ça se démocratise. Tous les prisonniers bientôt de France vont pouvoir avoir un bracelet électronique. Non, mais pourquoi du coup la justice développe cette pratique? Eh bien, parce que c'est un dispositif économique. Et ça, il faut bien le noter. De toute façon, tout le monde aime faire plus de thunes sur le dos des gens. Du coup, un condamné coûte entre 2 800 € et 3 700 € par mois. Et la location du bracelet classique revient entre 200 et 300 euros par mois. Alors, dans quel cas vous pouvez avoir le bracelet électronique si ça vous intéresse au lieu d'être enfermé? Du coup, c'est proposé avant un jugement à une personne mise en examen à la place d'une détention provisoire. Après un jugement, le bracelet est une des alternatives. On va pas dire une des alternatives, et une des potentielles peines que vous pouvez subir à la place de la prison ferme.
C'est
et ça, c'est quand c'est
en fait
inférieur à 2 ans. Ouais, voilà. Et sinon, c'est souvent la semi-liberté, mais j'ai pas pris d'informations sur la semi-liberté, on pourra en parler la prochaine fois. Et ça permet aussi d'exécuter les 4 derniers mois de condamnation. L'article 723-7 du Code de procédure pénale précise qu'une mesure d'aménagement de peine peut être exécutée 1 an avant la mi-peine. Du coup, c'est ce qui a permis à Jérôme Kerviel de sortir, et ce que beaucoup de détenus essayent de demander. Et du coup, après, ça fait des pressions. Ce que tu veux, des aménagements de peine, mais il faut bien que tu te comportes, et nanana. Du coup, notamment, il ne faut pas te faire choper avec un téléphone portable en détention, ce qui fait que t'es puni et tu peux plus avoir l'aménagement de peine que on t'avait promis. Voilà, c'est tous les trucs après du bâton et la carotte.
C'est pour les bons élèves.
De la prison, ouais, c'est ça qui est compliqué. Alors, du coup, ce qu'on disait, c'est là dans l'article, c'est certains préfèrent la prison. Alors, quand on lit comme ça, on peut dire, mais ils sont cons, ces détenus, ils préfèrent la prison à être en semi-liberté. Du coup, ça rappelle là que c'est un régime long. Et que les gens ils craquent parce que c'est une angoisse permanente. Du coup, ce que tu disais tout à l'heure, faut pas oublier ton pain, faut rentrer à l'heure et tout ça, parce que quand
il y a un problème dans le métro, faut pas.
Ouais, c'est ça. Tu travailles et du coup t'as pas, tu peux pas faire d'heures supplémentaires, voilà. Et parce que attendez, j'avais perdu, parce qu'ils considèrent que... Ah là là, j'ai perdu ça. À quel moment ils considèrent en fait que t'es évadé.
Bon,
on a perdu. Ah voilà, c'est ça. C'est que 4 heures sans nouvelles et sans justification valable, et t'es considéré comme évadé. Du coup, dès que t'es rechopé, t'es condamné pour évasion. Du coup, ça augmente ta peine. Voilà. Mais après, les bonnes nouvelles des derniers bracelets électroniques, c'est qu'ils ont acheté, ils ont signé un contrat avec Thales, parce que c'était celui qui faisait les offres les moins élevées. Mais il y a de plus en plus de dysfonctionnements. On gère 170 bracelets. Et depuis mars, il y en a 115 qui sont tombés en panne, déplore Frédéric Belhabib, surveillant de prison en milieu ouvert au SPIP d'Aix-en-Provence. Du coup, bah voilà, ça permet, par exemple, un type à Marseille, ça a mis 5 jours à signaler la déconnexion. Du coup, j'espère que les détenus en ont pu s'en rendre compte à ce moment-là. Et aussi, bah, de plus en plus, il y a de dégradation des personnes qui essayent de défoncer leur bracelet, ce qu'ils ne supportent pas. Voilà, du coup, le bracelet électronique est bien une peine, une punition, et ça renforce l'idée d'être enfermé dans un monde ouvert. Voilà, c'est peut-être un sujet philosophique. Est-ce qu'on est enfermé que quand on est enfermé dans un bâtiment ? Et on continue avec la rubrique exceptionnelle de la petite cuillère. Il faut que ça sèche.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Bonsoir. Alors, étant donné que je suis invité spécial de cette émission, j'avais envie de commencer par une espèce de petite récapitulatif de qu'est-ce que c'est un centre de rétention administrative et qu'est-ce qui fait un peu la différence avec ce dont on vous parle pendant toute cette heure, c'est-à-dire la prison. Du coup, en France, le CRA, centre de rétention administrative, c'est utilisé pour retenir les personnes d'autres nationalités auxquelles l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire. Et l'administration a décidé de procéder à leur éloignement forcé, comme ils l'appellent. Nous, on appelle ça une expulsion. Les retenus peuvent, dans certaines conditions, exercer des recours devant la justice, soit pénale, soit administrative, pour contester leur placement en rétention ou leur refus de séjour. Ils peuvent être assistés pour ça par une association. Alors avant, c'était la CIMAD qui était dans tous les CRA. Maintenant, il y a Forum Réfugiés à Saint-Exupéry et plein d'autres associations dans toute la France qui sont présentes à l'intérieur. Ou alors par un avocat, très très souvent commis d'office, qui ne connaît pas du tout le dossier. Ils peuvent être maintenus dans le centre de rétention pendant 45 jours maximum, ça a été prolongé plusieurs fois, on en arrive là maintenant, s'il y a celui qu'on appelle le JLD, le juge de libération de la détention, qui l'autorise. L'enfermement, il résulte d'une décision administrative, le plus souvent de la préfecture. L'autorisation judiciaire n'est nécessaire qu'au-delà de 5 jours, avant ça les flics n'ont rien à dire, rien à justifier. Juridiquement, un CRA, c'est pas un établissement pénitentiaire. Il dépend pas du ministère de la Justice. Les retenus sont gardés par des policiers, pas par des maçons. Des matons, encore moins que des maçons. Il ne peut comprendre plus de 140 places, mais ça
Est-ce
n'empêche...
Est-ce que t'as parlé des maçons pour qu'ils cassent les murs des prisons, non, c'est ça ?
Peut-être que c'est ça de mon lapsus qui fourche. C'est possible. Oui, il ne peut pas comprendre plus de 140 places, ça n'empêche pas bien sûr les gros centres, puisqu'il suffit d'en faire plusieurs dans la même enceinte avec des petits numéros, comme ils ont très bien su le faire pour contourner ce détail juridique, comme à Ménilamlo ou à Vincennes, dans la banlieue parisienne. La privation de liberté, selon eux, n'y a pas de caractère punitif. Alors ça manque ni d'air ni de cynisme quand même, mais elle n'est pas la conséquence d'un crime ni d'un délit. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de détention préventive, alors que tu n'as rien commis d'illégal sur territoire. si ce n'est d'être étranger et pauvre.
Il faut que ça se sache.
Alors, on commence les petites brèves par Paris, où il y a eu une gigantesque arrestation collective. C'était le 23 septembre, à 6h du matin, aux abords du métro La Chapelle. Plus de 150 personnes, principalement d'origine éthiopienne et érythréenne, ont été arrêtées et emmenées au commissariat de la rue de l'Évangile. C'est le commissariat du Nord Paris, en haut du 18e. Là-bas, on leur a demandé leurs empreintes. Ceux qui ont refusé, eh ben, ils se sont fêtés. Tapé. Et tout ce petit monde a été relâché vers 20h. Du coup, ils ont passé la journée au poste. Relâché sans aucun document, ne laissant trace de cette journée dans le commissariat. Les flics ont aussi arrêté une personne soudanaise qui n'avait rien à voir dans l'histoire, qui avait un titre de séjour de 10 ans, mais qu'ils ont gardé menotté toute la journée pour l'obliger à traduire. C'était du coup simplement une très grosse opération de fichage où les flics n'ont, comme d'habitude, pas du tout respecter leur propre loi. Déjà début août, il y avait une grosse rafle qui avait eu lieu exactement au même endroit.
Il faut que ça se sache.
Et on va à Calais maintenant, où des cocktails Molotov ont été lancés contre les migrants. C'était le 20 septembre, dans la nuit de samedi. Celui qu'on appelle le squat des Égyptiens, Louis Rublerio, a été attaqué par 4 riverains. Les riverains sont vraiment les connards du monde. À coup de cocktail Molotov, donc, car pourquoi faire dans la mesure, la demi-mesure après tout. 3 ont été lancés, mais il n'y en a que un qui a pris feu par chance. L'incendie a été vite éteint par les habitants du squat. L'un d'eux a tout de même été blessé à la jambe, percuté par le véhicule des attaquants.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, nous allons en Belgique. Alors là, on ne parle pas de centre de rétention administrative, on parle de centre fermé, ou d'autres mots, il y a plusieurs mots en fonction de petites différences juridiques qui font que les lieux n'ont pas exactement, il y en a aussi où ils sont avec les jeunes délinquants, enfin il y a plusieurs statuts comme ça, et où la grande spécificité par rapport à la France, c'est que le délai de détention est extrêmement long puisqu'il est en moyenne de 8 mois. C'est pas encore exactement harmonisé au niveau européen, et la Belgique fait partie des pays où la détention est la plus longue. Du coup, plusieurs brèves. Le mardi du 15 septembre, il y a 10 policiers qui ont voulu venir chercher un Nigérian dans le centre fermé, qui s'appelle le Caricol. C'est un centre récent qui a été construit à côté de l'aéroport de Bruxelles. Comme il a refusé de les accompagner, ils l'ont violemment frappé, traîné par terre, ils l'ont menotté en sang, il a continué à crier. Les policiers lui ont mis un masque médical, puis l'un d'eux lui a fait une piqûre avec une espèce de revolver, selon les témoins, qui tenait à quelques mètres de distance. Le détenu s'est écroulé immédiatement, ne bougeait plus, il a été porté dans le fourgon policier. Ça s'appelle une expulsion. Ben, on peut rien dire du tout.
Il faut que ça se sache.
Le lendemain, toujours au Caricol, les matons sont venus chercher un homme pour, soi-disant, aller chez l'assistante sociale. Ça, c'était vers 15h. Et puis, quelques minutes plus tard, ils sont venus chercher ses affaires dans sa cellule. Il semble avoir été emmené à l'aéroport. Il avait déjà refusé 4 expulsions. Cet homme était depuis plus de 4 mois en centre fermé. Il avait été déplacé dans 3 centres, à Bruges, au 127 bis et à Caricol. C'était plein de centres qui sont un peu autour de Bruxelles et Bruges. Suite à des révoltes, face au traitement inhumain dans les centres. Il avait été prévenu de cette expulsion et avait introduit une demande d'asile qui devait suspendre cette expulsion en question. Mais la fameuse assistante sociale du centre n'avait pas introduit la demande d'asile aux autorités concernées. Comme quoi, il n'y a pas que les flics et les juges sur lesquels on a envie de cracher.
Il faut que ça se sache.
On finit la Belgique au centre fermé de Votem, c'est à côté de Liège. Depuis plusieurs mois, il y a des grèves de la faim qui sont entamées très régulièrement, collectivement ou individuellement. Actuellement, plusieurs personnes en poursuivent une dans ce centre. Ils réclament la liberté et l'arrêt des expulsions. L'un d'entre eux est à son 7e jour de grève de la faim pour protester contre le durcissement des conditions de détention. Il est isolé dans une aile sécurisée du centre, sans aucun contact avec les autres. Par la voix de son avocat, il dénonce ces enfermements inhumains et dégradants et réclame la libération de toutes les personnes enfermées.
Il faut que ça se sache.
Et on finit cette rubrique sur l'émigration et la rétention en allant au Maroc. Alors malheureusement cette fois, en général quand on va au Maroc, on peut parler de Melilla et de Ceuta où il y a de gigantesques passages de frontières qui font un peu plaisir quand ils fonctionnent. Et bien là, c'est pas le cas. Je vais vous lire un appel au don, un appel urgent qui a été envoyé par le No Borders du Maroc. Alors, dans le nord du Maroc, de nombreux migrants et migrantes réfugiés sont bloqués en attente d'une chance de traverser vers l'Europe. Ces derniers mois, les harcèlements racistes ont augmenté, en particulier dans Bouhalef, un quartier à la périphérie de Tanger.
Dans la nuit du 29 au 30 août, un jeune migrant sénégalais a été agressé et tué. La communauté de migrants et migrantes a répondu instantanément à cet assassinat en descendant dans la rue pour protester contre cette forme extrême de racisme. Cela a conduit à plusieurs confrontations avec les flics. Ils utilisaient des canons à eau, battaient les gens et ont arrêté 29 de ces manifestants dans les jours suivants. 3, ça c'est les chiffres officiels, à 6 personnes auraient été tuées lors de ces événements. Une partie des personnes arrêtées ont été renvoyées dans leur pays d'origine, entre guillemets, parce que c'est toujours assez flou ce genre de concept. Certains et certaines ont été condamnés à un mois de prison et à une amende de 1000 dirhams, ce qui équivaut en ce moment à peu près à 100 euros. Dont d'autres ont été maintenus dans le sous-sol de l'aéroport de Casablanca pendant des jours et des jours, ont commencé une grève de la faim en signe de protestation contre leurs conditions de détention. Lorsqu'ils et elles ont finalement été libérés, ça a été pour être condamnés à nouveau à une amende de 1000 dirhams. À l'heure actuelle, 7 militants et militantes doivent payer cette amende pour éviter d'avoir à faire face à d'autres répressions. Sans guère de possibilité de trouver du travail à Tanger à cause du racisme et de la crise économique, cette somme d'argent est impossible à trouver. Par conséquent, nous appelons les militants et militantes et les groupes de l'Europe à faire preuve de solidarité en faisant un minime ou plus généreux don. Les gens ici sont confrontés au quotidien à la répression et au racisme suite aux politiques migratoires des frontières de l'Union européenne, mais continuent de lutter malgré la répression. Alors, je rappelle au passage du coup que effectivement, si l'Europe s'offusque par exemple qu'il y a un mur en Cisjordanie, il y a des murs similaires qui ont été construits entre le Maroc et l'Union européenne et entre l'Afrique et le Maroc même pour bloquer les passages, notamment justement au niveau de Ceuta et de Melilla, qui sont les enclaves espagnoles en Afrique, et que du coup l'Europe, elle, a déjà aussi construit des murs tout autour de ses frontières extérieures et voire des pays limitrophes pour que des petits échanges économiques permettent qu'ils fassent le travail à leur place et que Frontex ait un peu moins de boulot en interne. Du coup, le No Borders local a besoin de toute urgence de cette somme de 700 euros afin que les 7 militants et militantes soient soulagés de leur amende et puissent continuer leur lutte. Si vous ou des personnes de votre réseau sont dans la possibilité de verser un petit peu d'argent, ou si votre groupe ou association aurait des fonds disponibles à cette cause, vous pouvez entrer en contact avec un mail, prenez votre stylo et notez noborders.morocco@riseup.net noborders@riseup.net Ils vous feront alors parvenir les coordonnées bancaires pour le transfert de l'argent. Et voilà.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Et voilà, on est toujours sur Radio Canus 102.2 dans l'émission de la petite cuillère. Ouais, ça marche mieux comme ça.
C'est mieux comme ça.
Donc, Radio Canus 102.2, l'émission La Petite Cuillère. Et maintenant, on va passer à la rubrique Lime à ongles.
Ça, c'est pas la lime à ongles.
La boîte à outils, une rubrique pratique pour les détenus et leurs proches.
En même temps, tu m'as pris par surprise, c'était pas ça l'ordre, normalement.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et les détruire un petit peu. La lime à ongles, une rubrique sur toutes les évasions. La boîte à outils.
Alors, ouais.
Ah ouais, bon, je débute à l'antenne dans cette émission. Alors, on vous en a déjà parlé dans cette émission le 10 août 2014 en Haïti. 329 détenus s'étaient fait la belle à la prison civile de Croix-des-Bouquets, au nord-est de Port-au-Prince. On apprenait le 19 septembre que l'évasion spectaculaire des 329 prisonniers constituait une diversion pour permettre à Clifford Brand, un homme d'affaires, de prendre la fuite. 5 policiers seraient mis en cause, dont certains auraient avoué avoir touché de l'argent pour faire évader l'homme d'affaires. Sur les 329 fugitifs, seulement près de 80 ont été récupérés.
Vendredi 12 septembre, un détenu de la maison d'arrêt de Nanterre vers Paris s'est fait la malle depuis l'hôpital de Créteil où il recevait des soins. Il a été conduit là-bas pour attester de violences qu'il aurait subies de la part de matons à Nanterre. Les flics ont expliqué qu'il serait parvenu à libérer une main de ses entraves et à échapper à la surveillance de la police pour finir par s'enfuir.
Et un détenu de la prison belge de Saint-Gilles vers Bruxelles a échappé à la vigilance de la police vendredi 19 septembre, en fin de matinée, à l'hôpital Erasme. Il avait été conduit à l'hôpital par des agents pour visiter un de ses proches lorsqu'un complice est venu le libérer. L'homme, accompagné par trois policiers, s'apprêtait à quitter l'hôpital quand un véhicule est arrivé à vive allure. Les policiers ont reculé afin d'éviter de se faire écraser. Le détenu en a profité pour bousculer un des agents et a couru vers la voiture, arrêtée un peu plus loin. Les agents se sont lancés à la poursuite du détenu, mais celui-ci, bien que menotté, a réussi à monter dans le véhicule. La police, qui a cru voir une personne armée dans le véhicule, a tiré dans sa direction. L'évadé se serait rendu lundi dans la journée, espérant qu'il aura bien profité de son week-end de liberté.
Samedi 20 septembre, vers 2h du matin, 5 détenus se sont évadés de la prison du Cap-Haïtien, après avoir scié les barreaux de leur cellule. Le directeur de la tôle a indiqué qu'un complice non identifié avait fourni une scie aux détenus, ajoutant qu'un policier de l'administration pénitentiaire nationale, chargé de la surveillance, entre autres, de leur cellule, avait été mis en isolement, soupçonné d'être impliqué dans cette évasion. L'un des évadés a été blessé par balle par un maton et hospitalisé. Un second a été retrouvé caché dans un réservoir d'eau de la prison et remis en cellule. Les trois autres ont réussi à s'enfuir.
Entre Nantes et Quimper, dans l'ouest de la France, folle course-poursuite à 100 km/h dans les rues de Vannes, samedi 22 septembre au soir. Il est autour de 22h lorsqu'une voiture de police banalisée qui effectue une patrouille se fait couper la priorité au centre-ville de Vannes. Une voiture vient de griller le feu rouge à vive allure. Elle est immédiatement prise en chasse par la police tandis que l'automobiliste remonte la rue Victor Hugo à contresens en faisant des écarts pour éviter d'être bloqué. Il éclate un pneu et repart sur la jante. Au giratoire de la gare, il s'engage dans la rue des Grands Murailles, toujours à très vive allure. Les policiers le suivent et demandent du renfort. La voiture remonte rue Madame Lagarde, saute par-dessus un haricot, percute un véhicule en stationnement, éclate un pneu et repart sur la jante. Il prend la direction du boulevard de la Paix et heurte un platane, puis un second véhicule en stationnement. C'est à ce moment que les policiers tentent de le bloquer en serrant leur voiture banalisée le long de la Clio pour empêcher la fuite de l'automobiliste.
Mais c'est pas fini parce que ce dernier parvient pourtant à sortir de la Clio. Heurté par la voiture de police, il prend la fuite à pied. Poursuivi par les policiers, il est finalement interpellé rue du 11 novembre sur le parking situé devant la résidence Chateaubriand. Mais après un rapide contrôle, les forces de l'ordre constatent qu'il a picolé et qu'il est également considéré depuis quelques semaines comme évadé du centre pénitentiaire de Ploemer, dans la mesure où il a arraché son bracelet électronique. Un policier blessé, la course-poursuite ne s'arrête pas là. Les policiers de la BAC, arrivés pour en rajouter une couche, poursuivent son comparse qui s'est enfui, lui, à pied vers le jardin du Palais des Arts. Mais un keuf fait une chute, la tête la première, dans la rivière qui passe par là, quelques mètres en contrebas. Ses collègues abandonnent la poursuite pour se porter à son secours, car il semble en très grande difficulté et risque de se noyer. Une sacrée cavalcade qui finit sur un bilan mitigé. Si celui qui avait coupé son bracelet s'est retrouvé en tôle, son collègue, lui, ne s'est pas fait choper. C'est déjà ça.
Le bruit qui court.
Alors on commence ce bruit qui court à la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère pour faire un petit big up. Il paraîtrait qu'il y a 88 diplômes obtenus derrière les barreaux pour l'année 2013-2014 là-bas.
Big
bravo.
Up.
Eh ouais. Bravo à toutes celles et ceux qui sont dans le même cas. Et quand on sait combien il est plus dur d'étudier depuis l'intérieur de la tôle, on ne peut qu'admirer. Bon courage à toutes celles et ceux qui essayent de suivre des études à l'intérieur.
Et qui ont les stress des examens à la fin de l'année comme les étudiants extérieurs. On fait un petit clin d'œil à quelqu'une qui sera bien qu'on parle d'elle. Et on continue dans la nuit du 13 septembre à la prison de Villeneuve-la-Grande vers 3, dans l'Aube. Un détenu qui aurait, selon la pénitentiaire, mis le feu à sa cellule a péri dans l'incendie. 26 autres prisonniers ont été déplacés ailleurs dans la tôle pour raison de sécurité. Ah bah super.
Et le mardi 16 septembre, il y a des matons qui ont effectué une découverte assez peu commune, la présence d'un trou dans une des toitures de la vieillissante prison de Cayenne. Découpé artisanalement, ce trou permettant à une personne de s'y faufiler était au niveau des cuisines où travaillent plusieurs détenus au quotidien. À ce qu'on sache, aucun d'entre eux n'a eu le temps de tenter de se faire la belle. Le creuseur de trous présumé aurait été identifié et placé en quartier disciplinaire en attendant son jugement. C'est pour récupérer un colis envoyé de l'extérieur que le détenu aurait découpé ce trou. Malheureusement, le fameux paquet n'est jamais arrivé à bon port puisque la bouteille d'alcool qu'il contenait a été brisée lors d'un jet opéré depuis une allée attenante à la maison d'arrêt. C'est bien triste.
Et on continue sur quelque chose de pas vraiment plus gai parce que mardi 23 septembre au matin, selon la pénitentiaire, un homme de 71 ans aurait été retrouvé pendu avec un lacet dans sa cellule à la tôle de Nancy-Maxéville en Meurthe-et-Moselle. C'est un gardien qui aurait découvert son corps lors de sa ronde matinale.
Allez, on enchaîne. Pour tenter d'éviter aux colis de l'extérieur de passer par-dessus le mur d'enceinte de la tôle, la prison de Perpignan vient de se doter de deux filets anti-projection pour la modique somme de 400 000 euros. Et ils ont mis l'or dans les filets.
C'est clair, ça coûte cher. Attends, les pylônes de je sais pas combien de mètres de haut et
de
tout ça.
De filets en titane, tout ça, ouais. Tout ça.
Par contre, les bracelets électroniques, ça coûte beaucoup moins cher. Pour l'instant, lanceurs et lanceuses de poids, pas de panique, le filet ne fait pas tout le tour, le terrain de sport et quelques autres endroits ne sont pas encore équipés, et quand bien même, il faut dire que si les murs des prisons se franchissent pour se faire la belle, les filets, eux, peuvent bien se trouer.
Jeudi 18 septembre, au centre de détention de Villeneuve-la-Grande, à nouveau, dans l'Aube, à nouveau, un moniteur de sport a été frappé par un détenu à la maison d'arrêt. Bien fait pour ta gueule. Ils auraient eu un différend la semaine passée, on ne sait pas de quoi il s'agit, bien que, bien sûr, ni les raisons de l'énervement du détenu.
Et jeudi 18 septembre, au matin, au centre de détention de Châteaudun, lors de leur créneau sport, deux détenus se sont aidés du grillage pour monter sur le toit des couloirs de circulation. Après plusieurs minutes de discussion, les détenus sont finalement redescendus après avoir mis un petit peu la zone dans la tôle.
Mardi 23, au soir, vers 21h30, plusieurs véhicules ont convergé vers le palais de justice de Châlons. Près d'une cinquantaine de personnes en sont sorties, déterminées à protester énergiquement contre une décision prise par le juge d'application des peines l'après-midi même. Un détenu de la prison de Varennes-le-Grand s'était vu refuser une permission de sortie pour se rendre aux funérailles d'un de ses frères ce jeudi. L'homme fait partie des gens du voyage et il a bénéficié du soutien musclé de sa communauté. Des palettes et des pneus avaient été entreposés près des colonnes du palais de justice et les manifestants s'apprêtaient à incendier l'ensemble, ce qui n'a pas été fait. Pendant ce temps, le détenu, via son avocat, a fait appel de la décision du juge d'application des peines de Châlons. L'appel a malheureusement confirmé la décision. Mais quel bel élan de soutien.
C'est clair.
C'est clair, parce qu'il y en a plein qui se font refuser les sorties, quoi.
Allez, on continue. Sur demande de plusieurs détenus, les caméras de surveillance des salles de visite de la prison de Thorberg, vers Berne, en Suisse, ont été démontées. Ça, c'est cool. Au-delà, au total, 18 détenus avaient au préalable signé une lettre adressée aux responsables de l'établissement pénitentiaire leur demandant de désinstaller les dispositifs. Il n'existait en effet aucune base légale justifiant la présence, en plus des gardiens, de caméras en parloir.
Et encore, on continue avec un homme qui aurait été retrouvé mercredi 24 septembre au soir par des surveillants de la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Il aurait été retrouvé pendu. Voilà.
Un détenu de Toul en Meurthe-et-Moselle a vu sa peine prolongée après s'être fait passer pour un gardien de prison afin d'obtenir un prêt bancaire. On les aime bien, celle-là. Ouais. Il a en effet réussi à ouvrir deux comptes en banque pour obtenir rapidement de l'argent afin de le jouer.
Et c'est pas la première fois qu'on a des brèves comme ça. Il y en a plusieurs qui se font passer pour des gardiens ou ce genre de trucs.
Et juste, on rappelle qu'à Saint-Quentin-Fallavier, vous nous entendez. Et du coup, voilà, si vous voulez nous filer des infos sur ce qui se passe ou nous dire la fête que vous avez faite après l'obtention des diplômes, voilà. On rappellera tous nos coordonnées à la fin de l'émission.
Vendredi 19 septembre, alors qu'il était à l'infirmerie, un détenu s'est allumé une clope, n'allant visiblement pas très bien. Un surveillant lui a demandé d'arrêter. Pour toute réponse, ce détenu s'est mis à se lacérer le visage. Le surveillant a voulu intervenir pour le protéger, mais il a été blessé par la lame de rasoir. Il a dû observer un arrêt de travail de 5 jours. eh bien, il a été condamné à 8 mois de plus. Une belle leçon de morale de la part de la pénitentiaire. Pourquoi moi, je n'ai que les glauques et vous, vous avez des trucs cool?
Bah, on n'a pas non plus que des trucs cool cette semaine. Faut dire que dans ces 15 derniers jours, ça n'a pas été que la teuf. Enfin, de toute façon, quand est-ce que c'est vraiment que la teuf en tôle? On ne sait pas. Bon, on continue avec une dernière. Un maton en poste depuis 10 ans, dont 4 à la maison d'arrêt de Séquedin, a fait une drôle de rencontre mercredi dans le métro à Lille. C'est lui qui parle et qui dit « Un jeune d'une vingtaine d'années en survêtement avec un sweat à capuche me dit « Eh, ça va, surveillant? Tranquille ?» Je ne le reconnais pas, mais je lui réponds « Bonjour, oui, ça va. » Une fois le jeune homme et le surveillant montés dans la rame, les insultes pleuvent. « Bande de bâtards, sale maton, t'as pas ton uniforme, tu fais pas le malin, t'es tout rouge. » Aucun passager ne réagit. Et bien qu'il y avait plein de monde dans le métro, faut croire que peut-être il n'y a pas grand monde qui est solidaire avec les matons, et c'est pas plus mal. En descendant, le maton glisse à l'ancien prisonnier à son oreille, il lui dit « Eh, doucement !» Il lui dit qu'il va porter plainte pour les insultes, etc., etc. Après des années de l'immunité en tant que maton, il aurait peut-être mieux fait de faire profil bas et de cette fois tenir sa langue, car c'est là que le jeune homme lui donne un gros coup de pied dans le dos qu'il fait voler hors de la rame. Le maton remonte dans la rame pour le faire sortir et pour que la police vienne. Maton un jour, maton toujours. Une bagarre éclate entre les deux hommes. Quand le métro arrive à l'arrêt suivant, le jeune homme réussira à prendre la fuite après avoir bien amoché le maton.
On enchaîne. Alors, vite fait, on voulait vous raconter une petite victoire dans la prison à Lyon-Corbat du côté des femmes. Alors, une lettre avait été écrite à l'OIP pour signaler en fait les discriminations basées sur sexuelles, du coup basées sur le genre qui avait lieu entre les hommes, entre le quartier des hommes et le quartier des femmes. Du coup, il y avait toute une liste de comportements que la paix avait différents entre les hommes et les femmes. Et notamment, elles avaient qu'une heure de promenade le matin et une heure l'après-midi, tandis que les hommes ont une heure et demie tous les jours au matin et l'autre l'après-midi, suite à des négociations avec la direction de la prison en 2011. Et ils avaient réussi à prolonger les promenades, mais du coup, ça n'avait pas été la même pour les femmes. Et elles ont appris début de l'été qu'elles avaient 20 minutes en plus. Du coup, ça fait qu'elles ont toujours 10 minutes en moins que les hommes. Et aussi, au début de l'été, elles avaient l'autorisation de se promener en débardeur. Voilà, après la lettre de l'OIP, condamnait, montrait aussi les différences qu'il y avait au niveau du sport, l'accession à la salle de musculation qui était différente, elles n'ont pas accès au terrain de foot, elles ont moins de jours de sport proposés que les hommes. Après les activités, pareil, elles ont moins accès à la bibliothèque. La plupart sont gérées par la chef de la MAF. Ce qui fait que les activités ne sont plus un droit mais une faveur. Et après, sur les parloirs, elles avaient aussi, elles réclament en fait qu'il y ait autant de parloirs que pour les hommes, parce que pour les femmes, c'est mardi matin, mercredi matin et après-midi, et samedi matin et après-midi. Les hommes, eux, c'est de mardi à samedi, et du coup, quand il y a des jours fériés, ben les parloirs s'annulent. Par exemple, l'année dernière, le 25 décembre et le 1er janvier, c'était des mercredis, du coup, il y avait plus de parloirs du côté des femmes. Et elle aussi, l'atelier de travail. Qu'est-ce qu'elles nous disent là? Ah bon. On continuera la semaine prochaine pour la suite de leurs revendications dans 15 jours et on va écouter les messages que les proches ont laissés pour les détenus et après on viendra avec l'agenda.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque. De ce qui se passe ici dans les tôles de Corbat, Villefranche, Roanne. parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs.
Askatasuna. Liberté et solidarité.
Et voilà, du coup, c'était les messages pour les prisonniers et prisonnières. On rappelle à tout le monde qui nous écoute que si vous voulez nous laisser des messages, soit pour nous informer de trucs qui se passent à l'intérieur des tôles, ou soit pour laisser des messages pour les prisonniers et prisonnières, il y a plusieurs possibilités. D'abord, le numéro de portable qui est le 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71 ou qui est toujours éteint du coup, qui est sur répondeur. Vous pouvez laisser des messages 7 sur 7 et 24 24, ou alors sinon si vous voulez avoir quelqu'un au bout du fil ou appeler un fixe, c'est possible les jeudis avant l'émission à partir de 17h30 de nous appeler au 04 78 29 26 00 04 78 29 26 00. Sachant que la prochaine date de la petite cuillère, c'est le jeudi 9 octobre. Du coup, le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 9 octobre. On nous entend dans les tôles de Corba, Saint-Quentin-Falavier, Mézieux, au CRAT Saint-Exupéry et aussi sur, dans tous les hôpitaux psychiatriques qui sont dans le coin. Du coup, si vous voulez nous laisser des messages, je répète, soit pour les prisonniers ou soit de la part de personnes qui sont à l'intérieur et qui veulent nous informer de ce qui se passe pour qu'on le diffuse dans l'émission. Voilà, et aussi pour nous écrire, Radio Canu, BP 1101, 69 201, Lyon, CEDEX 01. Du coup, vous écrivez à La Petite Cuillère, Radio Canu, BP 1101, 69 201, Lyon, CEDEX 01. On remet toutes ces adresses sur notre blog pour les personnes qui ont accès à Internet. Voilà.
Puis dans 15 jours, on fera une rubrique sur les radios, parce que vous avez le droit d'avoir des radios, du coup, pour vous rappeler les lois si la paix vous fait chier. Et on fait juste un termine avec un agenda du... C'est un procès qui a se passé à Paris, mais c'est en soutien à Christine qu'on fait cet appel. Du coup, c'est Christine qui est accusée d'avoir mordu un maton de réo le 4 mars 2014. Le tribunal correctionnel de Melun l'avait condamnée à un mois ferme et 200 € dommages à intérêt, mais le parquet a trouvé que cette peine était trop sympa et a fait appel. Du coup, demain, elle est rejugée pour cette même affaire à la cour d'appel de Paris. Voilà, il faut être nombreux et nombreuses pour aller la soutenir. C'est à 13h, Paul 2, chambre 9 de la cour d'appel de Paris. Voilà. Et puis, ben, on te soutient quand même, Christine, même si je pense pas que tu captes nos ondes là où t'es. Mais voilà, c'est pour appeler un soutien à cette détenue qui se laisse pas faire par l'administration pénitentiaire. Ben, la petite cuillère, c'est fini pour ce coup-ci. Dans la semaine prochaine, c'est Papillon, l'émission. Contre toutes les prisons sur Radio Dio à Saint-Étienne, et on laisse les micros, les studios de Radio Canu à Antichambre, Radio Canu 102.2 FM. Ciao ciao.
Et à présent, on va vous expliquer exactement ce qui se passe. Ah. On va voir une espèce de petit truc très disgracieux, moi je trouve, quand j'écoute la radio, c'est que vous allez avoir un petit peu de bande continue comme ça là, les trucs qui, la musique qui tourne la journée, pendant une demi-minute ça va couper un morceau, vous allez entendre des trucs, après ça va recouper un morceau, Antichambre va enregistrer son émission pendant qu'on arrête d'enregistrer la nôtre, et en fait voilà, c'est ça qui fait que vous entendez ce truc qui fait pas professionnel du tout, mais on n'a pas d'autre système, alors c'est comme ça.
Ça vaut le coup que la petite cuillère ait des invités spéciaux, quoi. Comme ça vous apprenez les dessous complets de Radio Canu.
À la semaine prochaine.